Égypte, 17h10 en temps universel, l'heure de retrouver Décryptage avec vous, Marion Cazeneuve. Bonsoir.
Bonsoir Gilles, bonsoir à tous.
Décryptage. Marion Cazeneuve.
Trois jours depuis l'attentat de Moscou qui a fait au moins 137 morts et 285 blessés. Attentat rapidement revendiqué par l'organisation État islamique. Pourtant, le président russe Vladimir Poutine n'a toujours pas réagi à cette revendication et accuse l'Ukraine. Alors pourquoi une telle rhétorique, une telle réaction du Kremlin? Quelles conséquences cet attentat pourrait-il avoir sur le nouveau mandat de Vladimir Poutine qui a été reconduit le 17 mars? Élément de réponse ce soir dans Décryptage. Et deux invités avec moi pour répondre à mes questions. Bonsoir Jean Radvani.
Bonsoir.
Vous êtes géographe et géopoliticien, professeur à l'INALCO, spécialiste de la Russie. Et bonsoir Oleg Kobzev.
Bonsoir et je salue également le professeur Radvani dont je suis un grand admirateur.
Eh bien c'est dit, politologue spécialiste de l'Europe de l'Est. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord cet extrait pour commencer.
En ce qui concerne l'enquête sur ce crime et les résultats des actions opérationnelles d'investigation, on peut dire à l'heure actuelle ce qui suit. Les quatre auteurs directs de l'attaque terroriste, tous ceux qui ont tiré sur des gens et ont tué des gens, ont été retrouvés et arrêtés. Ils ont essayé de se cacher et se sont dirigés vers l'Ukraine, où, selon des données préliminaires, un chemin leur avait été préparé du côté ukrainien pour franchir la frontière.
Voilà, le président russe l'a dit, Vladimir Poutine, les terroristes s'apprêtaient à passer en Ukraine où ils avaient des contacts selon lui. Poutine sous-entend donc qu'il y a une implication ukrainienne, une responsabilité de Kiev dans cet attentat. Oleg Kobzev, pourquoi rester sur cette ligne malgré la revendication de l'État islamique ?
Parce que ça permet de mobiliser les troupes et de justifier cette guerre qui continue contre l'Ukraine est probablement une grande attaque qui semble se préparer dans un proche avenir.
Et alors, le Kremlin pourrait se servir de cet attentat pour nourrir sa rhétorique anti-ukrainienne, justifier sa guerre sur place. Jean Radvani, est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi qu'on peut identifier ?
Écoutez, on est en plein dans. Je pense qu'on est dans une nouvelle phase de cette guerre. Il y a eu, avant les élections de Vladimir Poutine, aurait élu président, il y a eu toute une série d'attaques ukrainiennes très en profondeur sur le territoire russe. Et pour les Ukrainiens, c'était clair. Il s'agissait de montrer aux Russes, y compris dans les grandes villes, à l'intérieur, loin du front, qu'ils étaient vraiment en guerre. Alors que les autorités, le pouvoir, depuis le début du conflit, a fait en sorte que les habitants des grandes villes, au fond, ne se sentent pas vraiment en guerre, dans le sens où la vie quotidienne continue et tout se passe à peu près normalement. Donc il y a eu ça, à la suite de quoi il y a eu les élections, et Peskov, le porte-parole du Kremlin, tout d'un coup change de vocabulaire et dit « effectivement, nous sommes en guerre ». Et voilà cet attentat. Les choses ne sont pas forcément liées. Mais dans la rhétorique du Kremlin, dans la façon d'organiser la propagande et dans l'esprit public en Russie, il est évident qu'il va y avoir un lien. Après, on est encore au début de l'enquête. Il y a une revendication officielle d'un groupe islamiste connu depuis des années. En même temps, on sait qu'il y a dans l'armée ukrainienne des musulmans, il y a quelques bataillons où on observe la charia. Donc moi, je n'exclus pas complètement le fait qu'il y ait eu une aide de l'armée ukrainienne, des services ukrainiens dans cette affaire. Alors on sait à la fois plusieurs choses, que Vladimir Poutine sait mentir, ment souvent, que les autorités russes mentent de façon extraordinaire, le ministre des Affaires étrangères et d'autres. On a vu, on sait que deux au moins des auteurs de l'attentat, si ce sont bien les auteurs de l'attentat, ont été torturés. Et dans ces conditions, évidemment, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et donc, la thèse officielle du Kremlin, c'est-à-dire c'est la piste ukrainienne, il y a un problème de crédibilité énorme. Mais enfin, voilà, on a une situation complexe et comme à chaque fois dans ce genre de grosse affaire avec les Russes, on saura peut-être la vérité dans des années.
Oleg Kobzev, est-ce que aussi pour Vladimir Poutine, pour le Kremlin, ça permettrait en quelque sorte de justifier une répression intérieure, par exemple. Est-ce que ça pourrait se traduire par un retour à la peine de mort, puisque des parlementaires russes ont réclamé récemment la levée du moratoire là-dessus? Est-ce que ça pourrait être une réaction du Kremlin, la levée de ce moratoire?
Tout à fait, et c'est ce qu'on craint beaucoup dans les milieux dissidents en Russie, toujours dans le pays et comme à l'étranger, dans la presse dissidente et d'opposition qui est maintenant réfugiée à l'étranger. Ce qu'il faut dire, c'est que moi je ne crois pas du tout en la piste ukrainienne, et il y a quand même beaucoup de soupçons, enfin même plus que des soupçons, puisqu'il est, ces organisations les revendiquent. Il y a une piste afghane qui est très nette, il y a une piste tadjik également, et ça me paraît beaucoup plus vraisemblable. Ce que ces terroristes djihadistes ont fait, c'est qu'ils ont livré à Vladimir Poutine sur un plateau son incendie du Reichstag, c'est-à-dire qu'il va en fait se servir de cette horreur, parce que c'est vraiment une abomination, pour justement, effectivement, il va, comme vous l'avez dit, il va utiliser le terme de guerre maintenant, mais jusque-là, les bombardements ukrainiens en terre russe, à Belgorod par exemple, ou sur les raffineries à Saint-Pétersbourg, ne faisaient presque pas de morts. Et là, c'est tellement crapuleux qu'évidemment, ça va mobiliser une haine du public contre les Ukrainiens, mais aussi contre tous les dissidents qui vont être traités de traîtres, de collaborateurs avec l'ennemi, et ça va pouvoir donner un prétexte pour resserrer la vis et faire un pas de plus dans l'autoritarisme et les répressions difficiles, et pas seulement la peine de mort.
Alors, vous dites que Vladimir Poutine peut tourner cela plus ou moins à son avantage, mais c'est aussi embarrassant pour les autorités russes qui ont ignoré les avertissements américains. Chantage et intimidation, avait répondu Poutine. Donc, c'est quand même ça va être difficile de justifier cela.
Tout à fait. Mais Poutine est pris encore dans une autre logique où il ne peut pas dire qu'il s'agit d'attaques islamistes, parce qu'il a quand même 20 millions de musulmans qui vivent dans son pays. Et là il y a deux risques. Risque numéro un, qui est d'ordre international. Il risque d'être en conflit avec des alliés, c'est-à-dire les Iraniens. En plus, il peut avoir des difficultés avec d'autres pays musulmans. Alors les Tadjiks, par exemple, apparemment le gouvernement tadjik actuel est en conflit avec ceux qui apparemment ont commis ou ont pu commettre cet attentat. Néanmoins, Poutine a une position extrêmement difficile, où certains gouvernements dans des pays musulmans ont des positions parfois ambiguës, même s'ils sont en conflit avec des groupes terroristes. Mais c'est extrêmement complexe, puisque vous avez aussi plusieurs groupes terroristes comme les talibans et d'autres qui sont en guerre entre eux en plus. Et justement, Poutine a peur d'être mêlé à ce genre de conflits extrêmement, extrêmement multiples. Et la deuxième chose, c'est qu'il a peur aussi, enfin il n'a pas peur, mais il ne veut pas relancer des conflits qui viennent à peine de se terminer, où les cendres des guerres sont encore chaudes, en Tchétchénie notamment. Il ne veut pas aggraver la situation. Et puis d'autre part, le risque aussi, c'est que vous ayez des Russes qui prennent l'initiative de pogroms contre des musulmans tout à fait innocents. Et là, c'est qu'ils peuvent lancer des incidents qui peuvent escalader, qui peuvent aller jusqu'à des ordres civils. Donc ça, il ne veut pas de cela. C'est beaucoup plus simple de dire que c'est un coup des Ukrainiens.
Et Jean Ravdani, vous vouliez réagir à ce qui a été dit?
Oui, alors c'est clair que il y a cette piste islamiste très sérieuse, parce que ce groupe qui a annoncé avoir commis cet attentat, on sait qu'il essaye de progresser en influence et au Tadjikistan et en Ouzbékistan. Et apparemment, les auteurs de l'attentat sont des Tadjiks. Du coup, effectivement, le Kremlin se trouve dans une situation assez compliquée. Il y a déjà des réactions parce que on annonce dans la presse russe, on annonce enfin, dans la presse russe de l'étranger, j'ajoute, qu'il y a déjà un certain nombre de gens qui ont réagi, qui ne veulent plus avoir affaire aux Tadjiks, qu'ils soient chauffeurs de taxi ou qu'ils soient dans le bâtiment. Et il n'y a pas de pogrom pour l'instant, mais il y a une méfiance et il y a toute une série, voilà, une attitude vis-à-vis des Tadjiks. Alors ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans en Russie et Vladimir Poutine, depuis longtemps, depuis la fin de la guerre en Tchétchénie, veille de façon vraiment très importante à assurer une stabilité, de bons rapports, et à la fois avec les musulmans de l'intérieur et avec les États musulmans étrangers, Arabie Saoudite, Jordanie, Syrie, bien entendu, et d'autres.
Et notamment parce que ces régions-là, la Tchétchénie, vote pour
alors,
Poutine.
La Tchétchénie, à chaque fois, bat des records de vote pro-Poutine. On se doute dans quelles conditions. Et donc, il y a vraiment cette question des musulmans de Russie et des islamistes. Alors, ils ont réglé d'une certaine façon le problème. Au moment des Jeux Olympiques de Sochi et au moment de la Coupe du Monde, ils se sont arrangés, le FSB a essayé de pousser dehors le plus, soit de mettre en prison, soit de pousser dehors tous les islamistes, enfin, convaincus d'islamisme ou soupçonnés d'islamisme, ce qui était de façon à ne pas les laisser revenir en Russie. Donc, du coup, il y a eu une stabilité jusqu'à présent dans ce domaine. Alors ensuite, c'est clair que le Kremlin accuse l'Ukraine, il y a cette piste islamiste. Ce qui, à mon avis, est à peu près clair, c'est qu'on va effectivement vers un renforcement de la répression, tous azimuts. Et d'autre part, c'est une autre question, ça fait quelques semaines qu'on parle, il y a une rumeur sur le fait qu'il y aurait une nouvelle mobilisation partielle, et on peut imaginer, je pense que ça risque de se passer comme ça, que utilisant cet attentat, le pouvoir russe va décréter une nouvelle mobilisation partielle en disant voilà, nous sommes attaqués et donc il faut se défendre, et il faut une nouvelle mobilisation, préparant une éventuelle nouvelle offensive russe sur le front ukrainien.
Donc un nouvel argument. Les enquêteurs, eux, semblent aller vite et chercher de quoi alimenter la thèse de la responsabilité ukrainienne. Voilà, par exemple, le lieu de l'arrestation qui serait à 150 km de la frontière ukrainienne. Oleg Kobzev, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le FSB omette certains éléments de l'enquête, en maquille d'autres pour accuser l'Ukraine, et donc que les familles, les proches des familles n'aient jamais la vérité sur ce qui s'est passé ?
C'est très vraisemblable. Alors, ils étaient à 50 km de la frontière ukrainienne, ils étaient également à 50 km de la frontière biélorusse, si on regarde sur la carte. Ils étaient aussi près de la Biélorussie, qui est dans les mains de Poutine, que de l'Ukraine. Alors, pour passer en Ukraine, bon courage. Comment est-ce que des terroristes, ne serait-ce qu'un tout petit peu intelligents, auraient fomenté l'idée de passer la frontière ukrainienne? Il aurait fallu d'abord rentrer en zone de guerre, passer la ligne... la ligne des soldats russes éventuellement, ou en les contournant, ensuite passer le front ukrainien. C'est complètement invraisemblable.
Mais alors comment ça peut passer ça dans l'opinion russe? Alors, comment est-ce qu'elle peut croire à cette version?
Parce que déjà on leur fait croire que le régime ukrainien est un régime nazi, alors qu'on a à la tête du pouvoir un juif. Donc quand on a utilisé une telle imagination déjà et que ça a marché, on peut s'attendre à ce qui est beaucoup plus facile.
Jean Radvanier, vous vouliez comment? Ah pardon, continuez Oleg Kobzev.
Non, j'avais terminé juste pour dire, voilà, c'est encore plus facile, c'est un tout petit peu plus vraisemblable, effectivement, de trouver des complicités ukrainiennes, puisque l'Ukraine est en guerre, justement.
Et Jean Radvanier, vous vouliez commenter ce qui a été dit?
Oui, les experts russes, je ne parle pas de ceux proches du pouvoir, mais les autres, disent plusieurs choses. Ils disent que la frontière la plus perméable pour un groupe qui chercherait à quitter la Russie dans ces conditions, c'est la frontière kazakh, sauf qu'elle est loin. Et on sait par ailleurs qu'il y a des groupes armés ukrainiens
qui ont pénétré à plusieurs reprises dans la région de Belgorod. Donc, c'est pas totalement invraisemblable. Simplement, je doute effectivement qu'on ait tous les éléments de l'enquête. Le FSB va choisir ce qu'il va dire, ce qu'il va fournir. Et donc, il va essayer à tout prix de laisser planer le doute. Ça va faire partie des affaires comme le Boeing sud-coréen ou l'affaire du gazoduc Nord Stream. On va avoir des années de passe d'armes sur l'enquête elle-même.
Et Jean Radvanieux, la Russie, je voudrais qu'on avance un tout petit peu. La Russie a été frappée plusieurs fois par le terrorisme islamiste. Comment Poutine réagit-il en général? Est-ce qu'il s'en sert à chaque fois pour appuyer son pouvoir? Est-ce que il s'en sert à son avantage?
Alors, les deux grands attentats précédents sont lointains. C'est 2002-2004. C'est donc dans un contexte différent. C'était à l'époque de la guerre en Tchétchénie. C'est le Nord-Ost, un théâtre à Moscou, et c'est l'école de Beslan. Il s'en est effectivement servi de façon absolument fondamentale. Après l'attentat de Beslan, il a décrété parce qu'il avait accusé les gouverneurs locaux, les gouvernements locaux de faillite dans leur surveillance du territoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme prétexte cette attaque de l'école pour supprimer le vote au suffrage universel des gouverneurs. Et ça veut dire qu'il a repris en main complètement ce qu'on appelle la verticale du pouvoir. C'est lui qui, à partir de là, nommait les gouverneurs pendant plusieurs années. Donc, effectivement, on sait comment Vladimir Poutine et son régime utilisent ce genre d'affaires très, très graves pour à chaque fois affermir son pouvoir, renforcer son pouvoir et l'utiliser. Alors ça, là, en l'occurrence, ça peut être utilisé en interne et ça va probablement être utilisé par rapport à la guerre qui est en cours.
J'aimerais aussi qu'on parle plus largement de l'utilisation du mensonge comme outil politique en Russie. Oleg Kobzev, la vérité russe est un mensonge sans fin, écrivait d'ailleurs l'écrivain russe Mikhail Chichkin. En quoi ça sert la politique de Poutine, le mensonge? D'où ça vient d'ailleurs cette tradition de mensonge d'État?
C'est surtout l'époque soviétique. Je vais juste citer Alexandre Solzhenitsyn. Mmh. Ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent et nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Donc ça, en fait, c'est le vrai mensonge ne sert pas. Quoi qu'en ce moment, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui gobent quand même la propagande russe. Nous sommes dans une nouvelle ère avec Facebook, etc. Mais le mensonge sert avant tout à rendre les gens passifs, c'est-à-dire que l'important, ce n'est pas de faire croire à une narration, l'important, c'est de créer la confusion. D'ailleurs, Hannah Arendt l'avait dit il y a des décennies de cela, on ne sait plus qui croire, c'est ça le problème. Et il y a une formule très très précise qu'utilise d'ailleurs le gouvernement russe ou les médias russes, c'est de dire « это не однозначно ». Tout ça, il n'y a aucune signification une, il n'y a pas une seule vérité en gros, si on veut traduire. Et du coup, comme on ne croit plus en rien, on devient extrêmement passif et finalement, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir qui contrôle la narration officielle et on est obligé d'accepter qu'on y croit ou pas parce que finalement, on ne saura jamais la vérité. Est-ce que qui a fait quoi? Est-ce que il y a également une vieille expression soviétique qui vient d'un film comique? Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Est-ce qu'il n'y a pas de vie sur Mars? La science ne sait rien, la science n'est pas au courant.
Et ce sera le mot de la fin. Merci Oleg Kobzev, politologue spécialiste de l'Europe de l'Est. Merci aussi à vous Jean Radvani, géographe, géopoliticien, professeur à l'INALCO, spécialiste de la Russie. Donc un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Merci également à Hélène Avril à la réalisation ce soir et à Jokurta Hammer au service documentation ainsi qu'à la Sonothèque de RFI qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans quelques secondes, le débat du jour.